philosophie première, père Marie-Dominique Philippe, le 11 mars 1998 à Saint-Jodard.
Sous-titrage Société Radio-Canada. spécialiste de la métaphysique. Je possède mes idées. Alors surtout ne les dérangez pas. Et l'interrogation dérange, puisque elle vient d'un autre. Et elle vient d'un plus petit. C'est très dérangeant de rencontrer un pauvre sur la route. C'est la parabole que Jésus prend du prochain. Cette pauvre qu'on rencontre sur la route est très ennuyeux, parce que c'était pas prévu. Où sont nos ermites? La première fois qu'il avait terminé son premier ermitage. Il était dans la joie, dans une très grande joie. Et il y a tous ceux qui avaient travaillé avec lui. Alors demain, la fête, on va faire une grande fête entre nous, au champagne. Alors, il avait à côté de lui un frère Jean, qui était un converti, qui est mort en Afrique. Quand vous allez en Guinée, là-bas, voyez, dans le désert, celui qui me disait, j'étais tout tremblant. C'est vrai, il était un peu méridional de Toulouse. Alors, quand il était en joie, il ne regardait plus la voir. C'était le désir, hein. Alors, le désir allait jusqu'au champagne et au désert. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche Dieu. Et Père Emmanuel, toujours le désir. Eh bien, suis-moi. Quelqu'un vient me voir au parloir. Je cherche Dieu. Où aller? Suis-moi. C'est bien comme un monde, c'est merveilleux. C'est pas commun d'encaisser aussi. Surtout quand la fantasia commence à... pour les repas au désert. Là, il se met en prière. Quelqu'un vient frapper à sa porte. C'était la femme de l'auberge d'à côté. Il dit, mon père, j'ai nettoyé. Et là, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit peut-être que le père Emmanuel en aurait besoin. Et il m'a dit que ça passait comme ça. Et puis j'aurais dit du père Emmanuel. Alors, oh, c'est merveilleux. Deux bouteilles de champagne et du bon. Et une lièvre. Qu'est-ce qu'il voit? Au seuil de la porte. un sang encore tout chaud. Il était encore tout chaud. Il regarde. Il voit un aigle. L'argent est dit, voilà. Cet aigle. Le Saint-Esprit s'en est servi. qui interroge quel est le sens ultime, dernier de l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être, pleinement être, dans ce qu'il a d'ultime? Alors, on cherche, et on trouve dans Aristote cette découverte, entelecheia, energeia. Et Aristote n'explique pas, et les commentateurs n'expliquent pas. Et pourtant, c'est peut-être cela, la plus grande découverte d'Aristote. La recherche de l'intelligence qui veut aller jusqu'au bout. Télos, la fin. Là où on se repose. Le repos de Dieu. Le repos de la soifée. Le repos du croyant. Où est-il le repos? Dans la fin. En télos. Dans la fin. Je cherche et je vois que j'ai deux expériences. Pas le ronronnement du chat, mais le vol de l'aigle. Le vol de l'aigle, emportant sa proie, ce lièvre, qui pour lui est sa faim, sa nourriture. Il avait emporté ça dans son nid. Ces petits aiglons. Alors, l'expérience de l'amour d'amitié, il y a l'ami, tu es mon ami. Est-ce que tu acceptes d'être mon ami? Tu es mon ami, c'est celui-là que j'ai choisi. Et puis, il y a mon choix. Il y a mon amour. Quand l'amour est suffisamment conscient, il s'exprime dans un choix. Je te choisis, je t'aime. Je t'aime, mon ami. Entelecheia, je t'aime. Mon ami Energeia. Et je réfléchis sur cette expérience de l'existence de l'autre, mon ami. C'est l'expérience la plus forte de l'exister. Ceci est, tu es mon ami. Et entre deux, je suis. Mais c'est trois. Et en conclusion, alors ça, le cours de théologie naturelle, il est nécessaire qu'il existe un être premier, une existence première, une existence nécessaire. Mais il faut bien réfléchir sur ces quatre moments, ces quatre sommets de bonne intelligence. Ces quatre transcendances, ceci est, je suis, tu es mon ami. Il est nécessaire qu'il existe un être premier. Vous mettez ça sur votre cahier de philosophie première, de métaphysique. C'est pour cela qu'on fait la métaphysique. Pour que ces quatre affirmations soient des affirmations qui ne soient pas des répétitions, mais qui soient pour moi ce qu'il y a de plus important dans les attention Aristote, le maître de ceux qui savent, comme dit Dante, le maître de ceux qui savent. Aristote, quand il s'agit de chercher la fin de ce qui est en tant qu'il est, nous dit qu'il faut une induction analogique. Alors, comme cette induction que je vous ai donnée est raide, c'est vertical, c'est ce qu'il y a de plus raide dans toute la métaphysique. Je ne dis pas que c'est ça achève tout, non. La découverte du principe permet la contemplation. Mais dans la pénétration, dans la réalité, c'est ce qu'il y a de plus raide. C'est l'ultime moment de l'analyse. La contemplation n'est plus une analyse. Tandis que l'induction, c'est une analyse. Alors, je vais regarder avec vous maintenant la manière dont Aristote, le premier, a découvert le principe propre de ce qui est selon la fin. C'est le premier qui a découvert ça. Heidegger dit que c'est le sommet de la philosophie grecque. C'est intéressant de voir quelqu'un qui, dans notre monde d'aujourd'hui, et surtout au milieu des recherches de la philosophie allemande, réfléchissant sur la philosophie grecque, considère que c'est là le sommet. Donc il n'a aucun a priori sympathique pour Aristote, parce que vous pourriez dire, mais ce que vous dites, c'est le sommet, parce que vous aimez Aristote, plus que Platon. C'est pas Aristote que j'aime, c'est le chercheur qui découvre la vérité. Alors c'est vrai, c'est l'ultime moment de cette recherche d'une philosophie réaliste qui découvre la finalité, la cause finale de ce qui est en tant qu'il est. Et Aristote sait très bien que c'est le mont Everest, le sommet. L'ascension qui fait que le Mont Blanc n'est pas terrible, c'est l'Everest. Alors Aristote dit qu'il faut une induction analogique, c'est-à-dire qu'il faut regarder les diverses expériences de toute ma philosophie. Qu'est-ce que c'est? Pilate dit, qu'est-ce que c'est? les degrés du savoir, les degrés de la qualité de ma connaissance. Et ça, je crois qu'on doit être très net là-dessus. C'est toujours la vérité, mais selon des modalités différentes. Et j'en ai une expérience interne. Quand je vous dis ce que je vous dis là, j'en ai fait la critique. C'est vrai. Vous pouvez me poser toutes les questions là-dessus, je répondrai. Parce que c'est la vérité. Si ce n'était pas la vérité, posez vos questions. Vous verrez que j'étais trop vite. Parce que je voulais aller tout de suite au terme. Leur imagination est là qui empêche d'être dans la vérité. Alors, j'ai une intuition. Quand on parle d'intuition de l'être, c'est bien cela. Parce qu'il n'y a pas d'intuition de l'être. Mais il y a des inductions, des causes propres de ce qui est en tant qu'il est. C'est beaucoup plus qu'une intuition. L'intuition porte sur une relation. L'induction porte sur la découverte d'un principe propre. Le principe propre est quelque chose d'ultime. La relation n'est jamais quelque chose d'ultime. C'est pour ça que l'intuition n'est jamais ultime. Platon a eu cette intuition des formes en soi. Et Aristote est venu en disant « Il n'y a pas de forme en soi ». Il a détruit cette intuition artistique qui se voulait philosophique et a remis Platon sur ses pieds. Regardez le Timée, le dialogue critique. Ça aussi, c'est très instructif et c'est très important. C'est là où, voyez, où l'opinion des philosophes ou des philosophes vivants ou morts m'intéressent parce que il me posera, grâce à ses intuitions, des objections très fortes qui m'obligeront d'aller plus loin. C'est pour ça que si on cherche la vérité, on doit écouter. Ceux qui cherchent et qui n'ont pas encore découvert, on doit les écouter doublement. En tant que chrétien, par charité. Et au point de vue de mon intelligence, pour voir où a été l'erreur, où a été la confusion, où il y a eu, vous voyez, l'attaque imaginative, intuitive, fausse, qui a fait un blocage. Alors, quelle est l'expérience la plus profonde que je puis avoir de ce qui est mon intelligence parfaite, mon intelligence qui se repose dans sa fin, la vérité. Quand je découvre une vérité, c'est-à-dire la découverte, par exemple, de la substance, principe propre de ce qui est selon la forme, je découvre le principe propre de ce qui est selon la fin. Il y a un repos. L'intelligence est heureuse de découvrir cette vérité. Tous ceux qui cherchent la vérité connaissent cette expérience. Je ne dis pas tous les hommes, mais tous ceux qui font de la philosophie et qui cherchent la vérité. Et je découvre à ce moment-là que mon intelligence est parfaitement elle-même. Mon esprit a atteint une vérité spéculative. Mais je pourrais aussi, et j'y reviendrai tout à l'heure, découvrir une vérité pratique. C'est autre chose. Ici, c'est la vérité spéculative qui est au sommet, puisque l'intelligence, dans sa recherche de la vérité, va plus loin dans l'ordre de la spéculation que dans l'ordre pratique. Et ici, je redécouvre, c'est important, la distinction si importante d'une intelligence qui cherche la vérité et d'une intelligence pratique, qui cherche la vérité pratique. L'intelligence qui cherche la vérité pour elle-même, c'est l'intelligence théorétique, spéculative, théorétique. Elle cherche la vérité pour elle-même. Et cela est le bien de l'intelligence. J'ai l'expérience de ça comme intelligence dans le domaine mathématique, dans le domaine philosophique, spéculative. Quand je découvre la nature comme principe propre de l'être physique, il y a un certain repos de l'intelligence. Et en analysant ce qu'est cette vérité, je vois que cette vérité, au plan spéculatif, c'est ce que j'ai atteint, ce que j'ai assimilé, ce que je possède autour de moi, conforme à la réalité que j'ai expérimentée. Je découvre, par exemple, ce qu'est l'homme comme le vivant le plus parfait de tous les vivants que j'expérimente. Et je découvre que sa perfection vient justement de l'éveil de son intelligence. Ça a été cela que Hegel a voulu mettre en pleine lumière. Mais pour le mettre en pleine lumière, il a oublié une distinction que nous voulons faire maintenant. C'est que c'est vrai, c'est l'éveil de mon intelligence qui donne à ce vivant particulier que je suis, que mon ami est, que tous ceux qui sont mes concitoyens, tous les novices jusqu'à présent, sont des êtres intelligents. Comme novice, un animal qu'on considère comme un singe, qu'on petit très évolué. Là, c'est évidemment l'évolution suprême et dernière. Je verrai tout de suite s'il est très évolué grâce à son tuteur. Mais si j'enlève le tuteur, il dégringole. C'est pas assimilé. Il y a des perroquets extraordinaires qui peuvent dire « Je désire entrer dans la communauté Saint-Jean. » Des perroquets peuvent dire ça. Alors, vous les interrogez. Vous dites « Pourquoi ?» Là, il y a le grand silence. Mais s'il avait un maître, un tuteur, qui avait compris, il dirait, pour être un saint, je continuerai. Pourquoi la sainte? Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Tout dépend du tuteur. Le point de départ de ma recherche, de ma recherche qui a abouti à cette définition, qui a abouti à dire ce qu'est l'homme. Je peux dire, j'ai idéalisé. J'aurais voulu que l'homme soit le plus parfait de tous les animaux. Il est le plus parfait de tous les animaux par la pensée, mais pas par le regard, la vue. L'aigle voit mieux. Il n'est pas parfait quant à sa force. Et ainsi de suite. Il est parfait par l'intériorité qu'il a. Et que c'est vraiment ça qui caractérise l'homme. Et donc, si c'est vraiment ça qui caractérise l'homme, c'est vrai quand je dis que l'homme est un animal capable de penser, capable de se penser, capable de connaître l'autre, capable d'atteindre la réalité qui est autour de lui, et de l'atteindre telle qu'est cette réalité, d'une manière différente. Cette réalité existe. La connaissance vraie existe dans mon intelligence, selon un mode différent. Et je peux préciser, selon un mode intentionnel. C'est réel, mais cela n'existe pas par soi. La vérité de mon intelligence n'est donc pas la vérité première. Elle dépend d'un autre qui est dans un état peut-être moins parfait au point de vue de son être, moins pénétrant, mais qui existe, qui dans l'ordre de l'être a une qualité supérieure. Voyez, je peux réfléchir sur ces deux. Mon intelligence qui cherche la vérité, qui l'exprime, puis la réalité dont elle cherche la connaissance, et à dire quelque chose qui soit vrai, conforme à cette réalité. Je vois donc ces deux états. Première expérience. C'est l'expérience la plus forte au point de vue philosophique. Si vous définissez la philosophie recherche de la vérité, on peut dire que c'est vraiment cette expérience-là qui occupe, qui prend le plus de temps dans ma vie, et dans la vie aussi d'un savant, qui cherche la vérité à un autre niveau. Alors, il faudrait là définir la vérité mathématique ou la vérité logique, en voyant que ce n'est plus la vérité au sens tout à fait fort, parce que ce n'est plus la réalité existante qui l'actue et la mesure.